Bonjour David Martinon.
Bonjour Monsieur Pontus.
Le 15 août 2021, vous étiez à Kaboul. Vous vous réveillez avec ces annonces de progression des talibans et la chute de la capitale n'est plus qu'une question d'heure. Un an après, quelles images gardez-vous de cette journée en particulier ?
L'image d'une équipe qui a travaillé avec sérénité, en dépit de circonstances qui étaient quand même très difficiles, et surtout une impression d'accélération au fur et à mesure, puisque quand nous nous réveillons le 15 août au matin, nous apprenons la chute de Jalalabad, donc la grande ville de l'Est afghan, qui pour moi était un déclencheur, c'était un indicateur qui devait nous amener à déclencher l'évacuation de l'ambassade vers l'aéroport. Et assez rapidement aussi, nous apprenons de nos amis américains qu'ils ne seront plus capables de tenir la zone verte, c'est-à-dire la zone sécurisée, plus de 48 heures. Et donc, à peu près à cette heure-ci, j'avais déjà décidé l'évacuation de l'ambassade vers l'aéroport. Et en fait, au fur et à mesure de la matinée, les choses se sont accélérées, puisque j'ai vu les ONG françaises à 11 heures pour leur dire de nous rejoindre dans la journée pour qu'on les exfiltre vers l'aéroport. Et quelques minutes après avoir levé la réunion, j'ai eu un appel du délégué de l'OTAN qui m'a dit « pars maintenant, pars tout de suite, les talibans sont à 20 minutes de Kaboul et il y a 5000 combattants
». Tout est allé très vite.
C'est une accélération permanente.
Vous faites le récit haletant de cette journée et des suivantes dans un livre « Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul ». Vous parlez d'accélération, David Martinon. Est-ce que ça veut dire que les Occidentaux, les Américains, ont perdu le contrôle de la situation ce 15 août 2021 ?
Ils l'ont pas perdu au sens où ils ont ramené tous leurs collaborateurs à l'aéroport et que personne dans la communauté diplomatique à peu près et internationale n'est resté derrière. C'est vrai qu'ils n'ont pas calculé probablement l'accélération des événements entre la chute de Mazar-e-Sharif, la chute des grandes villes les jours précédents et le moment où ils devraient replier tout le monde.
L'ambassade de France est alors la dernière à être évacuée. Pourquoi avoir fait ce choix ?
C'est un choix que j'ai dû faire vraiment dans l'urgence, à un moment où l'essentiel de l'ambassade était en train d'être héliporté. Moi, je faisais partie des derniers hélicoptères qui ont pu quitter la zone verte. Nous nous attendions à ce que l'arrière-garde policière puisse faire de même dans les minutes.
Vous êtes évacué alors vers l'aéroport, hein, je précise.
Oui, vers l'aéroport. Ouais. La difficulté, c'est que la noria suivante d'hélicoptères a été prise à partie par les talibans qui sont en fait entrés dans la zone verte, là où j'ai décollé, dans les 3-4 minutes après notre départ. Et ça, c'est la première raison. Donc, à ce moment-là, il est très difficile de continuer le mouvement. Et la deuxième, qui est plus fondamentale encore, qui est que à ce moment-là, quand les talibans entrent dans la zone verte, ils passent devant l'ambassade de France, où est déjà massée une foule d'Afghans qui demandent asile et protection à l'ambassade. Et mon équipe m'appelle, je viens d'atterrir à l'aéroport, en fait dans une base de la CIA, et ils me disent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des détonations, il y a des tirs, il y a des fumigènes, et surtout les pick-up des talibans repousse tout le monde et il y a un très grand risque que des hommes, des femmes, des enfants, des bébés soient écrasés devant le portail blindé de l'ambassade de France. Et donc je leur ai dit à ce moment-là d'ouvrir le portail parce qu'il en allait de leur vie.
Oui. Et donc là, des dizaines d'Afghans, de familles, entrent dans l'ambassade et vont y passer plusieurs jours. Là, il y a une bascule aussi de cette histoire. Hein. Vous étiez en train d'évacuer une ambassade et vous vous retrouvez avec un camp humanitaire qui s'installe en quelque sorte.
C'est ça, l'ambassade de France est devenue un camp de réfugiés. Et avec un nombre de réfugiés qui n'a pas cessé d'augmenter, puisque au fur et à mesure, on arrivait à extirper de la foule des Afghans que nous connaissions et pour lesquels nous considérions que nous avions une responsabilité morale particulière. Et donc, nous avons réussi à en évacuer entre 280 et 350 au bout de 3 jours. Et nous avons réussi globalement à évacuer ceux que nous n'avions pas pu sortir à ce moment-là dans les jours qui ont suivi. Et ça a été 3 jours très difficiles parce que nous n'avions pas de solution à ce moment-là pour réunifier l'équipe de l'ambassade et pour sortir tous les Afghans qui s'y étaient réfugiés, les Afghans et les internationaux.
Ouais.
Et ça a fait l'objet d'une équipée à risque qui nous aura tous marqués.
Ouais, ça, c'est le convoi terrestre qui part le 17 août au soir, parce qu'évidemment, là, il n'est plus question, du fait de l'insécurité, d'organiser des héliportations vers l'aéroport. 15 bus quittent l'ambassade. Et là, vous vivez presque 2 heures d'angoisse, hein, en les suivant à distance.
Oui, en effet, on avait tenté avec nos partenaires américains une opération héliportée dans la nuit du 15 au 16 août. Et là encore, les hélicoptères ont été pris à partie par les talibans. Et donc, il était impossible de retenter cette opération-là. Toutes les options ont dû être écartées à ce moment-là, sauf celle d'un convoi terrestre négocié avec les talibans. Sauf que ce que nous voyions bien à ce moment-là, c'est que ceux qui sont entrés dans Kaboul à ce moment-là, c'était des combattants, c'était pas des politiques. Il n'y avait aucune organisation unifiée du côté de l'insurrection talib.
Oui, donc la difficulté, c'est avec qui négocier, qui
voilà,
a autorité.
Et donc en fait, il faut essayer de négocier avec tous ceux qui ont un bout de pouvoir ou qui tiennent un checkpoint. Et il y en a eu 8 entre l'ambassade et l'aéroport et East Gate, où nous avons pu recueillir le convoi. Et à chaque fois, ça a été une montée d'angoisse et une montée d'adrénaline, parce que nous ne savions jamais comment les choses pouvaient se passer.
Oui, c'était extrêmement dangereux. Vous en aviez parfaitement conscience.
C'était très dangereux parce qu'encore une fois, l'insurrection talib, ce n'est pas une armée régulière. Et en fait, effectivement, tout était possible à chaque fois, d'autant que nous avions dans les bus, nous avions des Français, des internationaux, mais nous avions aussi des Afghans. Et tout était possible à leur égard, à leur encontre.
Ouais.
Nous savions que certains pouvaient décider de bloquer des bus, qu'est-ce qui s'est passé, de faire descendre les Afghans. Et au-delà des Afghans, dans les Afghans, il y avait aussi un certain nombre de personnalités que nous avions cachées dans le cortège, dans les voitures, dans les coffres, et qui, eux, n'auraient probablement pas passé la nuit s'ils avaient été arrêtés.
David Martinon, un an après le retour des talibans, est-ce qu'on peut dire que tous les Afghans qui ont aidé la France sont aujourd'hui en sécurité ?
Pour l'essentiel, il est tout à fait possible que certains se manifestent. Et après, évidemment, les critères sont plus flexibles que ce que nous avions au départ. C'est-à-dire que, de toute façon, toutes les demandes sont étudiées. Il y a une équipe de 8 agents au Quai d'Orsay, plus une autre équipe au ministère des Armées qui examine toutes les demandes.
Et qui continue de travailler aujourd'hui dessus.
Qui continue de travailler sur les évacuations. Nous poursuivons les évacuations, même si ce sont dans des circonstances de plus en plus difficiles, notamment parce que les talibans interdisent ces départs, pour l'essentiel.
Ouais. Est-ce qu'on sait combien de familles d'Afghans ont été accueillies en France depuis un an ?
Depuis un an, nous avons sorti à peu près 4000 personnes.
David Martinon, aujourd'hui, vous exercez vos fonctions d'ambassadeur de France en Afghanistan à distance. Comment est-ce que la France est représentée sur place, à Kaboul ? Y a-t-il encore une quelconque représentation diplomatique ?
Non, l'ambassade a été mise en sommeil. Elle est gardée par une minuscule poignée de nos gardes afghans qui n'ont pas souhaité partir et qui ont accepté avec courage de rester. Enfin, ils étaient totalement volontaires. Nous n'avons pas de représentation donc à Kaboul. Nous avons un émissaire qui est installé à Doha et qui est chargé d'avoir des contacts avec les talibans, mais donc ceux qui sont à Doha. Et pour ma part, je continue le travail avec l'ONU, avec l'Union européenne, en contact avec les Afghans de la diaspora et les personnalités afghanes qui sont restées à Kaboul et qui sont en réalité essentiellement au nombre de 2, mais les plus éminentes, qui sont l'ancien président Karzai et l'ancien chef du gouvernement Abdullah Abdullah, qui ont tous les deux choisi de rester avec beaucoup de courage. Et c'est pas sans conséquence pour eux, puisque le président Karzai n'a toujours pas été autorisé à quitter l'Afghanistan, même pour consulter des médecins ou faire autre chose. Et le chef de l'exécutif, Dr Abdullah, lui, a pu sortir une fois pour voir sa famille, et il a dû rentrer après, et depuis, il n'a pas été autorisé à sortir.
Et est-ce qu'un retour à Kaboul est envisageable ?
Nous considérons aujourd'hui que les conditions ne sont vraiment pas remplies pour une réouverture de l'ambassade, même pour des missions ponctuelles. Les nouvelles de Kaboul depuis un an sont toutes mauvaises, toutes, à la fois du point de vue humanitaire où la situation est très mauvaise et où la communauté internationale a pris en charge quelque chose comme 23 millions d'Afghans hein, sur 32. Et évidemment, du point de vue des droits de l'homme, on voit bien qu'ils sont bafoués tous les jours. Enfin, tous les jours, j'ai des mauvaises nouvelles. Tous
Et
les
les
jours,
droits
je
des femmes en
reçois des...
particulier,
Et en
oui.
particulier, bien sûr, les droits des femmes qui sont absolument niés, à peu près en totalité.
Il y a eu un mirage absolu qui a consisté à croire qu'on avait peut-être affaire à des talibans modérés.
Oui, alors ce mirage, il a jamais agi sur nous. Moi, j'ai toujours considéré que c'était les mêmes. Que de toute façon, le concept de taliban modéré, c'est un non-sens. Que certains ont pu apparaître à une partie de la communauté internationale comme peut-être plus pragmatique, mais on voit bien que ce pragmatisme est extrêmement limité lui aussi, puisque dans les pragmatiques, on avait tendance à voir, par exemple, Sirajuddin Haqqani, le chef du réseau Haqqani, sauf qu'il est quand même responsable de plus d'un millier d'attaques suicides et que c'est quand même lui, apparemment, selon la communauté du renseignement américaine, qui a fait revenir à Kaboul Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda.
Qui a été abattu il y a quelques jours. David Martinon, est-ce qu'il faut négocier malgré tout avec le régime des talibans?
Négocier, ça veut dire parler pour obtenir quelque chose pour soi. On n'en est pas là. Nos intérêts en Afghanistan ne sont que des intérêts défensifs. Et pour le moment, nous n'avons pas besoin de négocier avec eux. En revanche, nous leur parlons, notamment pour leur dire de quoi, enfin, ce que nous attendons d'eux, et notamment les conditions qui ont été fixées par la résolution 2593 du Conseil de sécurité de l'ONU fin août. Donc nous leur disons ce que la communauté internationale attend d'eux. En revanche, négocier pour avoir le droit de les aider, non, ça on n'entre pas dans une telle logique pour notre part.
Merci à vous, David Martineau. Merci pour votre témoignage sur RFI avec nous.
Merci de votre invitation.